Je vous invite dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Luc, encore ce matin, pour notre quatrième volet sur ce sujet « Investir pour l'éternité ». Nous serons dans le chapitre 18 de Luc aujourd'hui. J'allais inclure juste une pub pour le stand de Togo. J'ai ajouté des cacahuètes de mango et des noix de cajou de Togo sur la table. Donc, il ne faut pas écraser des personnes pour être là en premier. Et j'ai proposé, hein, je ne sais pas, il me regardait un peu comme, on ne sait pas, mais j'ai dit, je suis prêt à donner ma chemise aussi. Donc, pas avant le message, mais ce n'est pas ce genre d'église, mais que la chemise est achetée, tissu acheté Togo, fabrication mango Togo aussi. Et donc, bon, ce n'est pas que la gentillesse et la générosité. J'ai dit, si je ne prends pas la chemise avec moi à Mango, j'ai de la place pour un paquet de café et deux bâtons de berger que je veux emmener avec moi. Donc, vous me faites un service presque si vous prenez la chemise. Mais que si quelqu'un s'intéresse, ils ont dit ils vont faire une vente aux enchères pour la chemise. Hein, ou si vous arrangez avec moi avant, c'est possible. Luc 18. On pourrait, dans ce sujet des paraboles de Luc et investir pour l'éternité, on pourrait avoir une série de beaucoup plus de messages, hein, j'avoue. Et que Luc 18, ce n'est pas entièrement la fin de cette section. Il y a aussi l'histoire de Zachée que nous n'allons pas voir pour nous dans cette série. Et que j'ai décidé de ne pas prendre tout le chapitre 18 non plus pour des questions de temps, mais que juste pour situer le contexte dans Luc 18, ça commence par une histoire d'une femme pauvre, une femme veuve qui a un problème, qui a besoin d'un juge. Je ne sais pas quel genre de problème, mais la Bible dit qu'elle est allée plusieurs fois frapper à la porte du juge, faire des rendez-vous, demander de l'aide, et il refuse de l'écouter. Et elle continuait, elle frappait, elle a frappé, elle frappait. Et finalement, le juge dit, j'en ai assez de cette femme, je vais faire ce qu'elle veut. Et il répond à son besoin et le problème est réglé. Et Jésus fait une remarque sur cette démarche en disant, je dirais quelque part comme l'histoire d'hier soir, que Dieu n'est pas comme ce juge. Mais nous devons être comme la femme, mais Dieu n'est pas comme le juge. Nous frappons à la porte du ciel et nous avons un Père céleste qui répond à nos besoins, qui est là pour nous, qui écoute et qui est prêt à donner ce dont nous avons besoin. Donc, en quelque sorte, on commence ce chapitre par l'exemple de foi d'une femme désespérée. Et tout de suite, on passe à une deuxième histoire que nous n'allons pas voir non plus, de publicains et pharisiens, très connus dans la Bible, mais connus parce que ça va contre les pensées des hommes, que l'homme qui pourrait présenter une justice devant Dieu et dire que j'ai tout fait qui est bon, j'ai rien fait qui est mauvais, être admis, être accepté au ciel, est contrasté avec un homme qui se tient tout au fond du temple, qui n'ose pas s'approcher de Dieu et qui se frappe sur la poitrine et qui dit « Je suis le plus grand pécheur du monde ». Et dans son humilité et son humiliation, Jésus remarque qu'il y a un homme qui prie en lui-même. Il dit, « Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi, je sais que tu es fier de moi. » Et l'autre qui dit, « Mais Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait contre toi, je sais que tu as honte de moi. » Et à la fin de cette histoire, Jésus dit, « Il y en a un qui est rentré à la maison justifié. » C'est celui qui s'est humilié devant Dieu, qui par la foi a demandé le pardon et a reçu le pardon de ses péchés. Deuxième exemple de foi. Et donc, là où nous allons commencer ce matin, et ce n'est pas au verset 9, c'est plutôt au verset 15, et j'ai oublié, pour ceux qui n'ont pas été là les trois autres fois, notre thème général, c'est le contraste entre les gens qui sont ce que Jésus appelle de bonne santé spirituelle, mais entre guillemets, parce que vous allez voir dans notre histoire de ce matin qu'on peut être tout près de la santé parfaite, et ça ne suffit pas. Et puis contraster avec ceux qui sont des pécheurs, des publicains, des prostituées, des gens de mauvaise vie. Et Jésus dit, à la fin de la section 19-10, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est les perdus que Jésus cherche, pas des bonnes santé. Et donc, l'histoire centrale de notre message ce matin, c'est le jeune homme riche, que j'appellerai l'exemple parfait de celui qui doit être au ciel selon la pensée des hommes. Okay. Même si on avait un poster au fond de l'église, grande photo sur qui est le meilleur exemple d'un chrétien, probablement on mettrait quelqu'un comme lui sur la photo. Mais la question, j'essaie d'introduire le message comme ça, mais la question qui va nous animer ce matin, qui animait les disciples dans ces histoires, c'est « Et nous alors ?» Qu'est-ce qu'il y a pour nous, hein ? Nous qui avons tout donné pour Jésus, nous qui avons vécu notre vie pour l'Évangile, pour la gloire de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose pour nous ? Donc vous allez voir la raison que je mette ça en avant, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le texte. Mais avant d'arriver au jeune homme riche, si vous suivez cette introduction, vous êtes vraiment fort, hein, parce que je suis là et après là et après. Mais que, en fait, femme désespérée, publicain honteux, et Jésus va faire cette remarque. Des gens lui emmenaient même de tout petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples, en voyant cela, les firent des reproches. Allez-vous-en. Jésus appela les enfants et dit, laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas. Car, écoutez ça bien, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. Okay, donc jusqu'à là, je souligne encore trois exemples. Une femme désespérée qui dit « Je frappe jusqu'à ce que Dieu m'ouvre ». Deuxième, un publicain qui reste à l'écart et qui dit « Je ne mérite rien, Dieu devrait me punir, Dieu doit me juger pour tout ce que j'ai fait. Mais pardonne-moi, Seigneur, le pire des pécheurs. » Et Jésus l'accueille. Et puis troisième exemple, il dit « Il faut être comme un enfant. Si on veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut devenir comme un enfant. » J'essaie d'imaginer pourquoi un enfant est l'exemple type de la foi que Jésus cherche. Et je dis, ils accordent une pleine confiance à celui en qui ils ont mis leur confiance. Même les enfants sont parfois, enfin, presque toujours, naïfs. Ils vont suivre quelqu'un. Si tu leur proposes un bonbon, ils vont te suivre. Mais ils font confiance sans trop demander. Ils ne s'intéressent pas trop à ce qu'ils vont recevoir même. Et ils suivent celui en qui ils ont mis leur confiance sans trop réfléchir sur les conséquences. Et ils sont prêts à tout donner pour celui en qui ils ont mis leur confiance. Et donc Jésus dit, sois comme un enfant. Okay. Sois comme cette femme. Persévère. Sois comme ce publicain. Vois pourquoi tu ne devrais pas être admis, mais sois comme un enfant. Va à Dieu comme s'il a tout pour toi et tu veux tout ce qu'il a. Et là, tout le monde dit, bon, ok, on suit, on comprend un peu. Et je pense même les disciples, pendant qu'ils sont en train de refouler les enfants, Il y en a un qui est allé, il est parti chercher ce jeune homme riche pour dire, mais Jésus, attends, tu dis qu'il faut être comme l'enfant, mais on pense plutôt que tu devrais dire, il faut être comme ce jeune homme. Et il place le jeune homme devant Jésus. À la place des enfants, il dit, regarde ce que nous avons trouvé, le meilleur, le plus vrai des croyants. Et le jeune homme, ou le chef dit ici, c'est souvent appelé le jeune homme riche, chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Question sincère un peu, question plutôt qui attend que Jésus renforce ce qu'il pense déjà. Vous avez posé des questions comme ça, vous connaissez déjà la réponse, mais vous voulez que quelqu'un dise oui, ça, vous avez raison. Et Jésus répond à cet homme, pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est pas Dieu seul. Déjà, et ça devrait clignoter un peu rouge pour le jeune homme, que... Parce qu'en appelant Jésus bon, il est plutôt convaincu que il est bon. Si Jésus est bon, il est bon, peut-être meilleur que Jésus. Et Jésus va dire, mais pourquoi tu m'appelles bon ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de bon vraiment ? Ce n'est pas pour douter de la perfection de Jésus, de la nature divine de Jésus. C'est plutôt une question banale de tous les hommes. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un assez bon pour dire que Dieu peut m'accepter tel que je suis. Et il dit, tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, et fait la liste de plusieurs des commandements. Et le jeune homme répond sans hésiter, sans réfléchir, il dit, j'ai respecté tous ces commandements de ma jeunesse. J'ai tout fait. Si je demandais que vous leviez les mains, qui peut dire ça ce matin ? Jamais brisé un seul commandement. Jamais menti, jamais triché, jamais volé, jamais fait quelque chose de mauvais, de méchant. Qui peut dire ça ? Mais apparemment, sans hésiter, sans honte, ce jeune homme dit, moi jusqu'à là, c'est la perfection. Ouh ! On revient au début de l'histoire, le pharisien, pour dire que c'est un peu osé. Et Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Et le jeune homme dit, mais non, je ne crois pas. Hein. Et Jésus dit à ce jeune homme riche, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Il te manque une chose. Et là, vous vous attendez à ce que je dise, bon, à la fin, il y a une boîte, vous mettez tout ce que vous avez et vous avez la garantie de la vie éternelle. Vous avez mal lu ce que Jésus est en train de dire ici. C'est pas, son but n'est pas de prendre le portefeuille de ce jeune homme riche comme quelqu'un m'a fait l'autre jour dans le métro. C'est pas le but du tout de Jésus. Et l'homme, quand il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Et voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un des mots que les Africains ont décidé de prononcer différemment que les Français. On dit « aiguille » en Afrique. Quand vous venez, il ne faut pas demander une aiguille, il faut demander une aiguille. Okay. D'accord. Je vais parler de la tragédie de ce jeune homme riche. D'abord, la question « qui est bon sauf Dieu ?» La réponse n'est pas difficile. Franchement, ce matin, je vous dis, la réponse n'est pas difficile pour lui ni pour nous. Qui est bon sauf Dieu ? Quelle est la réponse ? Personne. Si vous êtes là avec la pensée que vous êtes assez bon pour mériter votre place au ciel, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La réponse à cette question est personne. Dieu seul est assez bon pour mériter sa place au ciel. Et pas moi, pas toi. L'homme, et on peut être à la recherche, l'homme, ici, il pose la question, donc quelque part, il cherche, mais il pense avoir déjà trouvé. Mais la vérité est dans les paroles que Jésus dit. Et il dit, il fait tout ce qu'il peut pour avoir la vie éternelle. Et combien de personnes dans le monde font tout ce qu'ils peuvent? Moi, je vis dans une population qui fait plus que la moyenne, qui fait plus que la plupart des gens que je connais, plus que moi peut-être, pour gagner la vie éternelle. Et je vois leur ardeur, je vois leur cœur. Je dis, mais si seulement le fait de faire tout ce qu'on peut était suffisant pour gagner sa place, la place est acquise. Mais Jésus dit, il y a une chose qui te manque. Mais en fait, il va peut-être l'envoyer sur deux choses. Parce que quand on dit « j'ai jamais enfreint un des commandements », j'ai dit « bon, je peux, juste comme ça, sur le tas, je peux trouver deux que tu viens de briser. » Premier commandement, Dieu avant toute chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi, bon, implique. Que s'il veut vraiment suivre Dieu, il est prêt à tout donner pour Dieu. Et il n'est pas prêt. Donc déjà, premier commandement passe un peu à côté. Deuxième commandement, dixième commandement plutôt, tu ne convoiteras pas. Il dit, je ne peux pas, Jésus, je ne peux pas faire ça parce que j'ai trop de choses. Je suis trop riche. Il ne faut pas oser demander ça à moi. Tu demandes ça à cette pauvre femme au début, ou à ce publicain ou quelqu'un, ça va, mais moi, j'ai mérité tout ce que j'ai gagné. J'ai droit à garder tout ce que Dieu m'a béni. Non, c'est trop, tu ne peux pas. Et Jésus dit, bon, dixième commandement, déjà, on est à 8 bons et 2 mauvais. On ne peut plus dire, j'ai tout fait depuis mon enfance. Ou grillé. Dans cette tragédie, le jeune homme riche s'accroche à son trésor terrestre au lieu de saisir le trésor céleste. Si Jésus est vraiment la porte pour lui d'entrer dans le ciel, la porte de la vie éternelle, et il dit non, cette porte-là, je ne veux pas, je veux ma porte, je veux la porte que j'ai choisie, la porte que j'ai fabriquée pour moi-même, je veux cette porte-là, mais pas ta porte. Tout d'un coup, mes amis, tu es perdu. Tu es peut-être en bonne santé aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu es perdu. Il faut lâcher tout ça. Il dit, suis-moi. L'abandon de sa vie pour la vie de Jésus implique l'abandon de sa richesse aussi, de tout ce qui est à lui, de tout ce qui est pour lui, tout ce qui est en sa faveur. Et il s'en va triste, disant, non, c'est trop. Je préfère garder ma voie, mon chemin, suivre ma porte. Comme on l'a vu depuis le début de cette série, et là où est ton trésor, tu trouveras ton cœur. Et ton cœur ne va pas avec Jésus. Jésus, la remarque qu'il fait sur cette tragédie, et les disciples sont là. Non, Jésus, hein. Un comme ça, ça paye les factures pendant je ne sais pas combien d'années pour nous des disciples. Et tu l'as dit, oh, les disciples sont un peu en tristesse aussi. Mais Jésus dit, il veut faire une leçon spirituelle. Et il dit, c'est plus facile pour qu'un chameau passe par la tête des guilles que pour un homme riche, d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne pense pas voir des gens riches devant moi ce matin, donc je ne vais pas faire un tri ici. Mais juste pour dire que celui qui s'accroche à son argent ne passera pas par la tête des guilles. Okay. Il faut tout lâcher. Jésus dit, il faut tout lâcher pour accéder au royaume de Dieu. Et heureusement que pour la plupart de nous, Dieu nous laisse avec ce qu'il faut pour vivre. Dieu nous laisse avec tout, même au-delà de ce qu'il nous faut. Et l'homme ferait mieux de lâcher sa richesse pour saisir le royaume de Dieu toujours, sans exception. Et donc, ceux qui écoutaient, on va voir les disciples après, mais ceux qui écoutaient cette interaction sur le jeune homme riche, ils sont dans la confusion aussi. Mais si lui, il ne peut pas être sauvé, qui peut être sauvé? Deuxième question dans ce passage, qui peut être sauvé? Et Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Je vais vous remettre dans le verset précédent. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes? Qu'un chameau passe par la tête d'aiguille ou qu'un homme riche entre dans le royaume de Dieu? Ou que quelqu'un qui est presque assez bon entre dans le royaume des cieux? Jésus dit, ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Donc, qui peut être sauvé? Si les bons ne peuvent pas, nous n'avons aucune chance. Et ce jeune homme était à deux doigts de mériter le ciel, mais il est impossible d'être sauvé, sauf, et ça je vous donne la vérité absolue, sauf par la grâce de Dieu. Je dois répéter, il est impossible pour un homme d'être sauvé, un homme quiconque, quelconque, d'être sauvé, sauf par la grâce de Dieu. Tu peux être à deux doigts toi-même, et c'est impossible. Ou tu peux être le publicain qui est le plus loin possible du salut. Mais pour un homme, c'est impossible s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Si Dieu n'offre pas sa grâce et nous sauve par l'œuvre de Jésus-Christ aujourd'hui, personne. Sauf s'il est un peu tout petit chameau. Personne ne peut accéder au royaume des cieux. Et là, la troisième question du passage, celle qui planait dans la tête des disciples depuis longtemps. Ils voient tout ça. Bon, ils pensent que pour eux, ils ont compris la grâce, ils ont compris le salut. Donc là, ce n'est pas trop leur question. Mais Pierre dit, mais Seigneur, voici, nous avons tout quitté pour toi. Et nous t'avons suivi. Ce que tu as demandé au jeune homme riche, nous l'avons fait. Et nos poches sont vides. Nous ne savons pas où nous allons manger à midi. Nous ne savons pas où nous allons dormir cette nuit. Il dit, qu'est-ce qu'il y aura pour nous? Si on dit aux riches, vous ne faites pas partie de notre équipe, nous qui avons tout donné, il reste quoi pour nous? On a besoin de gens comme ça. Nous avions besoin de son argent. Et ce qui fait peur un peu, il était meilleur que nous tous. Tu veux de nous et pas de lui, ça ne semble pas logique. Et nous avons fait comme tu lui as demandé, et nous avons toujours rien reçu. Question, je dirais, peut-être embêtante. On n'ose pas poser. Mais quand est-ce que ça va payer de t'avoir suivi? Si vous n'avez pas réfléchi à cette question, je dirais, allez-y maintenant, c'est le bon moment de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qu'il y a pour ceux qui donnent leur vie à Jésus. Okay. Et Jésus ne dit pas ah, « Vous êtes grondés pour avoir posé cette question. » Il ne faut pas réfléchir comme ça. Non, il répond. Sincèrement, honnêtement et gentiment à ses disciples, Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants. » Okay, première réponse. « Sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent. Okay. » Deux. « Et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Tu veux la réponse à la question « Qu'est-ce qu'il y aura pour nous ?» Jésus dit « Ça sera bon ici, ça sera meilleur là-bas. » Mais toi, Jésus, j'étais content avec deux. Hein. Un et deux, c'était bon. Mais trois, il dit « Nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs. » On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir le troisième jour où il ressuscitera. Et les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour un langage obscur. Combien de fois Jésus a prédit sa mort et ils n'ont pas compris ces paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Donc, première réponse à la question, dans cette vie, vous aurez toujours plus que ce que vous avez donné. Deux, dans la vie future, vous aurez la vie éternelle, la vie avec Dieu, la vie qui dure pour l'éternité. Le bonheur, la félicité, tout ce qu'on veut appeler ça, vous aurez ça. Mais trois, il y aura un petit peu de problème entre 0 et 1 ou 1 et 2, peu importe où on met. Le 3, ça va être un problème. Mais j'aimerais souligner cette réponse un peu. D'abord, il dit, personne qui a suivi Jésus ne recevra pas plus que ce qu'il a donné. J'aimerais vous dire, et je parle comme quelqu'un qui a l'impression d'avoir donné sa vie pour le royaume de Dieu, donner sa vie pour suivre Jésus autant que possible. Je dirais, jusqu'à là, je peux vous garantir que j'ai reçu plus que j'ai donné. Chaque jour, je dis, Dieu me bénit avec une telle bénédiction que je ne peux pas comparer ce que j'ai pu donner à Jésus par rapport à ce que Dieu m'a donné. J'espère que vous vivez votre vie chrétienne avec cette gratitude. Que tout ce que j'ai reçu, ça vaut. Dans l'évangile selon Marc, je crois que c'est Marc, il dit vous recevrez le centuple, 100 fois. Je ne pense pas qu'on peut quantifier les statistiques entre ce que j'ai donné et ce que Dieu me donne en retour, mais j'aimerais vous dire que on ne peut jamais s'approcher de ce que Dieu va nous donner. Donner sa vie, abandonner en quelque sorte, comme il donne l'exemple, abandonner sa famille pour le Seigneur, abandonner son argent pour le Seigneur, abandonner quoi que ce soit pour le Seigneur, ça vaut le coup. Ça paye. Peut-être pas en argent, peut-être pas en des choses, trésors de la terre, mais ça paye. À ceux à qui s'est abandonné à moi, qui a quitté sa famille ou les autres choses. Dans Marc, il dit pour moi et pour l'Évangile. En Matthieu, c'est pour mon nom, pour la gloire de mon nom. J'essaie de vivre ma vie pour qu'à la fin, les gens ne disent pas « Bon, qu'est-ce qu'il était bon, ce Evan Drake ?» Mais j'aimerais bien... C'est encore David Livingstone quelqu'un a dit avant qu'il meure, qu'est-ce que tu veux qu'il dise à ton enterrement? Qu'est-ce que tu veux, comment tu veux qu'il décrive ta vie? Et il a dit, lui qui a passé 40 ans en Afrique dans la souffrance et dans la difficulté, il a dit, quand il parle à mon enterrement, j'aimerais qu'il parle beaucoup de Jésus et pas beaucoup de moi. Je dirais, j'aimerais bien que ça soit ma vie. J'espère que c'est pour vous la même chose, que ce que les gens reconnaissent, c'est que le sacrifice de l'un, c'est rien par rapport au sacrifice de notre chef et notre sauveur. Et qu'on parle de lui, parle de ce qu'il a fait pour moi, pour mon nom, pour ma gloire. Et il recevra beaucoup plus dans le temps présent. Quel est le retour en investissement pour celui qui veut investir pour l'éternité? Jésus dit beaucoup. Bon, je ne sais pas si le financier que vous utilisez, qui dit combien je vais gagner si j'investis dans ça? Il dit bah, beaucoup. Je dis mais combien? Ah, beaucoup. J'aime des chiffres, mais que beaucoup. Mais quand je vois dans l'avenir, dans le monde à venir, la vie éternelle, je dis, ça m'est égal ce que je gagne ici, parce que ça vaut le coup de toute façon. Et il dit, d'abord nous montons à Jérusalem, et ça va se passer assez mal là-bas. Préparez-vous. Et que quelque part, je crois que Jésus veut mettre un peu d'eau froide dans leur joie et dire que la croix viendra toujours avant la couronne. Ça, c'est la vérité biblique, que l'humiliation vient toujours avant l'exaltation, que la croix viendra toujours avant la couronne. Donc si vous attendez, si vous êtes parmi ceux dans le monde chrétien aujourd'hui qui pensent « bon, je donne un peu et Dieu va me couvrir d'argent, de bénédiction, il va me donner une bonne santé, il va me donner ceci et cela », je vais vous dire. C'est un faux évangile qui annonce que la couronne peut venir sans la croix, que la richesse peut venir sans passer par l'humiliation. La croix vient toujours avant la couronne, mais la couronne viendra. Et c'est certain. C'est ça la promesse de Jésus à ses disciples et à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y aura pour moi, Jésus? Dans cette vie, tu seras béni. Tu ne vas pas te plaindre. Mais dans la vie future, il y a la vie éternelle. Et quelque part entre les deux, il risque d'y avoir des souffrances. Il y a une femme dans l'histoire de la France, même dans l'histoire d'Europe, Anne d'Autriche, qui a dit, j'essaie toujours de dire Anne d'Autriche, mais Anne d'Autriche, qui a dit une phrase que j'aime beaucoup, « Dieu ne paye pas à la fin de chaque journée, mais à la fin, il paye toujours. » Quel est le retour en investissement? Je ne peux pas vous donner des chiffres, mais je peux vous dire que la garantie du Sauveur et du Seigneur, c'est que dans cette vie, vous serez bénis. Et dans la vie à venir, vous aurez la vie éternelle. Si ça ne vous suffit pas, je dirais, je suis désolé pour vous, je suis triste pour vous. Vous ferez peut-être comme le jeune homme riche et dire, oh, c'est pas vrai, il m'a demandé ça. Mais je vais vous dire, mettez votre confiance, comme la femme désespérée, dans le Seigneur, comme le publicain honteux, dans le Seigneur, comme les enfants qui suivent le Seigneur comme ça, mais pas comme le jeune homme riche qui a dit, ça coûte trop cher d'investir dans le royaume des cieux, parce que à la fin, Dieu paie toujours. J'aimerais prier. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous demandes d'investir dans ton royaume, avec notre vie, avec notre énergie, avec notre temps et avec nos biens. Et nous savons, par rapport aux autres autour de nous, ça nous coûte. Mais nous avons cette confiance, cette garantie même, que personne qui a décidé de donner sa vie pour Jésus regrettera cette décision. Personne dira un jour, ça ne valait pas la peine. J'aimerais prier pour ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui peut-être cherchent la vérité. Est-ce que Jésus, ça vaut le coup de croire, ça vaut le coup de suivre? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça va me prendre? Qu'aujourd'hui, qu'ils lâchent le trésor de ce monde, ils lâchent la croyance en eux-mêmes et qu'ils prennent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et pour nous tous, que nous puissions dire aujourd'hui, moi je veux Jésus. Jésus, c'est mieux que l'argent. Jésus, c'est mieux que la santé. Jésus, c'est mieux que l'applaudissement des frères et des amis. Ça vaut la peine de suivre Jésus. C'est en son nom que j'ai prié.